lettres coréennes. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Lettres coréennes. Cette semaine, nous vous proposons de lire ensemble la nouvelle de Hae Isu, cahier de Han San.
J'ai bu une gorgée de café sucré à 1000 won, puis j'ai mis mes écouteurs avant d'allumer mon enregistreur vocal. Plus de 30 fichiers audio enregistrés au cours des 15 derniers jours. Les entretiens ont été menés auprès des fabricants de mochi, un tissu de rami, des marchands, des vendeurs ambulants et divers autres habitants. En cette période hivernale où l'alerte à forte chute de neige alternait avec l'avis de grand froid, je parcourais le canton de Hansan avec un dictaphone et un cahier. Au bout de 2 semaines, tous les résidents ont commencé à me poser la question « Mais quand est-ce que vous allez partir ?»
Le narrateur protagoniste de cette nouvelle publiée en 2013 est un écrivain. Il était en train d'écrire un roman, mais avait du mal à avancer dans son travail. Son épouse a fini par annuler tous leurs contrats d'épargne rachetable et résilier les polices d'assurance. Il a donc décidé de trouver un emploi pour le bien de sa femme et de ses 2 enfants. C'est pour cela qu'il a contacté son ami, rédacteur en chef d'une revue littéraire. Ce dernier lui a demandé d'aller au marché de Hansan et de rédiger 20 articles à base d'interviews.
Écoute, Vladimir Nabokov a dit « Tandis qu'un homme de science voit tout ce qui arrive en un point donné de l'espace, le poète sent tout ce qui arrive en un point donné du temps. » Tu vois ce que ça veut dire ? Un univers peut être trouvé même chez un paysan. Alors, arrête de te plaindre et va recueillir les histoires des habitants.
Notre protagoniste écoute les fichiers enregistrés au cours des 2 dernières semaines au café Prairie, situé à côté de la mairie du canton. La vapeur de l'eau brûlante s'échappe de la bouilloire sur un poêle à charbon au milieu du hall. Au mur, un calendrier publicitaire d'un producteur de boissons alcoolisées est accroché. La propriétaire du café prépare du thé dans une tasse réchauffée dans un autocuiseur de riz électrique placé sur une étagère en bois.
Goûtez ceci.
La tisane au gingembre offerte par la propriétaire est épicée et sucrée. C'est un jour de marché, mais le café est presque vide, ce qui laisse à cette femme d'âge moyen suffisamment de temps pour parler avec notre personnage principal. D'habitude, elle a 10 clients par jour et la boisson la plus populaire est le café sucré à 1000 won. La plupart des boissons au menu coûtent en effet 1000 won, soit moins d'1 euro. Le poêle du hall consomme chaque jour 6 briquettes de charbon, dont le prix de vente unitaire est de 500 won. Le café dépense donc 3000 won uniquement en briquettes de charbon, alors que son chiffre d'affaires quotidien dépasse un peu plus de 10 000 won.
Devant mon visage perplexe, elle a expliqué qu'elle n'avait aucun problème à gérer le café parce qu'il lui arrivait d'accueillir plus de 30 clients les jours de marché. Je lui ai demandé quelle boisson était la plus chère. Le jus d'igname fraîche et la tisane au ginseng. 5000 won chacun. Elle a arboré un large sourire en prononçant joyeusement 5000 won. Elle allait acheter les igname crus au marché. Quant au ginseng, elle en commandait à Hongsan. Les affaires vont mieux en été. Le café glacé à 3000 won est très demandé. Elle livrait du café glacé dans les champs et les rizières. Elle rendait également de petits services à ses clients. Elle allait acheter des cigarettes ainsi que des objets de toutes sortes nécessaires à l'agriculture. Je lui ai proposé de créer une boisson signature pour son café. Mais je n'ai besoin d'aucune boisson signature, tous les cafés n'en ont pas. Je lui ai demandé s'il y avait d'autres ingrédients qu'elle se procure elle-même en plus du gingembre mariné au miel. Je me les procure pour la plupart par moi-même. Les œufs que je mets dans l'infusion médicinale, sanghua-cha, proviennent des poules que j'élève chez moi. Les fruits pour le thé au jujube viennent du jujubier de mon jardin. À l'exception du café, tous les ingrédients étaient locaux et naturels. Je lui ai demandé cette fois-ci combien de poules elle avait. Elle a répondu qu'elle en avait une quarantaine. Elle a dit qu'elle avait apporté des œufs frais de la maison et m'a proposé d'en goûter un. Puis en a fait bouillir quelques-uns. Ce n'était pas exact de dire que le café n'avait rien de spécial. En fait, sa définition de spécialité était différente de celle des citadins.
Tout en mangeant les œufs durs, le narrateur protagoniste pose quelques questions plus personnelles à la propriétaire du café Prairie. Elle s'est installée à Hansan après avoir épousé son mari à l'âge de 20 ans. Mais elle a divorcé avant même de fêter son 30e anniversaire et a élevé seule ses 12 enfants. Sa fille, aujourd'hui adulte, lui envoie de l'argent tous les mois. Elle incite à prendre sa retraite. La propriétaire se soucie toujours de ses enfants, en particulier de son fils qui n'est pas encore marié. Après l'entretien, notre narrateur lui demande s'il y a quelqu'un d'intéressant dans la ville qui il pourrait interviewer. Elle suggère un jeune homme vétérinaire qui est devenu secrétaire à la coopérative de crédit.
J'ai pris le dictaphone et le cahier avant d'enfiler ma veste. Puis, je lui ai demandé pourquoi elle avait nommé le café « Prairie ».« Parce qu'il n'y a pas de prairie ici. C'est joli, vous ne trouvez pas ?» J'ai hoché la tête en signe d'acquiescement et j'ai bu mon infusion. C'était déjà ma troisième tasse. Lorsque j'ai dit que c'était très bon, elle a dit que la boisson avait été faite avec le maïs cultivé dans son potager. Il lui coûtait sans doute beaucoup moins cher que d'acheter du maïs grillé. Comme j'avais bu deux tasses de tisane au gingembre avec les œufs durs, je lui ai dit de garder la monnaie. Mais elle a catégoriquement refusé. Je suis sorti du café et j'ai descendu les escaliers en ciment. Je me suis souvenu de sa réponse en regardant distraitement le mot « prairie » gravé sur le panneau. « Parce qu'il n'y a pas de prairie ici. » Elle avait raison. Nous serions étouffés si nous n'avions pas de prairie ou de lieu de repos comme celui-ci.
Le narrateur est très ému par cet humble café de cette petite commune rurale. Voici Pang Min-ho, professeur de littérature coréenne à l'Université nationale de Séoul, qui nous en dit un peu plus là-dessus.
Un vieux café dans un milieu rural pourrait être considéré comme un endroit désagréable pour certains. La femme a pourtant choisi de gérer cette boutique à l'ancienne et de vendre des boissons à base d'ingrédients produits localement. L'écrivain, ayant du mal à gagner sa vie, a dû sentir chez elle une sorte d'épuisement similaire au sien. Mais à la différence qu'elle l'a accepté comme partie intégrante à sa vie. C'est justement cette attitude modeste et sereine qui émeut tant notre protagoniste.
Il reste encore 12 heures à notre personnage principal avant le rendez-vous avec Nam Yang-gi, le jeune secrétaire à la coopérative de crédit de Hansan. Comme il n'a rien à faire, il regarde autour de lui. C'est alors qu'il repère une horlogerie. Il se rappelle soudain que sa montre bracelet s'est arrêtée. Les trois murs de la boutique sont bordés de vitrines. La plus grande contient toutes sortes de montres, bracelets et d'horloges. Celle de gauche est remplie de bijoux et celle de droite expose des appareils photo manuels. Notre protagoniste entre, mais personne n'est là.
Excusez-moi, il y a quelqu'un ?
Une femme dans la soixantaine sort enfin du fond de la boutique. Après avoir demandé ce qu'il désire, elle appelle son mari, le propriétaire. se sentant tout de suite à l'aise devant le visage aimable et la voix joviale de l'horloger, notre écrivain lui demande depuis combien de temps il est dans les affaires.
Je travaille dans ce secteur depuis plus de 40 ans. J'ai déménagé plus de 8 fois. Au début, ma spécialité était la réparation de produits électroniques, mais j'ai changé de domaine car la réparation de montres était plus rentable. Mais je peux toujours réparer n'importe quel produit électronique. Les gens qui me connaissent disent que je suis trop bon pour cette commune rurale.
Notre protagoniste lui demande cette fois qui sont ses principaux clients.
La majorité sont des personnes âgées entre 60 et 80 ans. Il n'y a pratiquement plus de jeunes ici.
Son épouse intervient.
Ce sont nos clients depuis longtemps. Ils achètent parfois des bagues en or pour le premier anniversaire de leurs petits-enfants.
Le réparateur reprend.
La plupart viennent pour faire réparer leurs montres-bracelets. Les gens d'ici jettent rarement les choses. Ils réparent à peu près tout. Nous vendions des bijoux ou des montres pour les jeunes mariés, mais plus maintenant. Et vous, d'où venez-vous ?
Demande soudain sa femme. Notre narrateur protagoniste leur dit pourquoi il est venu dans ce canton, puis se met à les interviewer à nouveau.
Le propriétaire de l'horlogerie, M. Park Sun-jong, âgé de 64 ans, était originaire d'un tout petit village appelé Song-san-li, à environ 2 km de là. Depuis son adolescence, il avait fait preuve d'un talent exceptionnel pour démonter et réparer les radios ou les téléviseurs abandonnés. Il était allé à Séoul avant l'âge de 20 ans. Comme la plupart des jeunes de l'époque qui n'avaient pas pu continuer leurs études, il était déterminé à acquérir des compétences techniques et à gagner sa vie.
Cependant, dans une horlogerie à Séoul, il a passé de nombreuses années en tant qu'apprenti en faisant toutes sortes de petits boulots.
Les employés quittaient le magasin si le propriétaire leur apprenait des compétences trop rapidement. Il hésitait donc à me former.
Le jeune Park Sun-jong a compris qu'il n'apprendrait plus rien du propriétaire de la boutique. Il a quitté la capitale pour s'installer à Kunsan. Heureusement, l'horlogerie de cette ville du sud-ouest de la péninsule se chargeait non seulement des montres, mais aussi de divers produits électroniques et même de lunettes. Le magasin avait de nombreuses machines et le propriétaire était beaucoup plus ouvert que celui de Séoul.
Maintenant que j'y pense, cet homme était hautement qualifié. Il m'a dit de l'observer. Et d'apprendre de lui.
Cependant, M. Bach avait du mal à comprendre ce qui se passait à l'intérieur d'une montre.
Je sais maintenant comment les montres fonctionnent, mais c'était vraiment difficile pour moi de le comprendre à l'époque. J'ai failli tout abandonner.
Il a passé plus de 6 mois à nettoyer les pièces détachées. Puis, un jour, son patron a posé les pièces d'une montre cassée sur la table et lui a dit de les remettre en état de marche.
La tâche consistait à remettre toutes les pièces à l'intérieur de la montre et à remonter les engrenages aux bons endroits. Il avait répété la procédure plusieurs centaines de fois dans l'espoir d'accomplir la mission avec brio. Il brûlait de désir d'être reconnu par son patron et de passer au niveau supérieur. Il avait progressivement appris à connaître chaque partie de la montre à l'intérieur comme à l'extérieur. Quand je suis devenu confiant dans mes capacités, j'ai démonté une montre chère. J'ai remis toutes les pièces à leur place, mais la trotteuse ne bougeait pas. Oh, cela m'a rendu fou. Il démontait de nouveau chaque pièce, les nettoyait, puis imitant la façon dont son patron avait travaillé, les huilait avant de les remettre à l'intérieur. Il a répété cette procédure pendant 4 mois. Puis, un jour, ça y est. La trotteuse s'est mise à tourner. Je pensais que l'axe de la terre avait été déplacé. J'ai poussé un cri d'admiration. Oh, je pouvais le comprendre. Il lui avait fallu près de 10 mois pour faire bouger cette trotteuse d'un point à l'autre sur le cadran. Il avait dû ressentir à cet instant-là la merveille du tremblement de l'axe de la terre. Oh, c'était assez simple quand j'y repense aujourd'hui. Après avoir nettoyé les pièces, mon patron les huilait avant de les ajuster pour qu'elles se déplacent doucement. Je me suis alors dit, si je mettais plus d'huile, les pièces tourneraient mieux. Oh, quel idiot j'étais ! Ayant pensé la même chose que lui, je ne savais pas quoi répondre quand il m'a dit, me regardant droit dans les yeux, « Quel idiot j'étais !» Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous devez huiler les pièces très légèrement pour qu'elles fonctionnent correctement. Thank you. Eh oui, le secret qu'il avait finalement découvert après avoir fouillé dans les intestins d'une montre pendant 120 jours était le nombre approprié de gouttes d'huile. C'est alors qu'il s'était rendu compte du secret de la vie. Le huilage ou l'assaisonnement dans les relations humaines ou les affaires du monde ne produisait des résultats maximaux que lorsqu'il était effectué en quantité minimale, presque imperceptible.
Depuis lors, le patron a commencé à lui enseigner des compétences plus pointues. 4 ans plus tard, M. Pak a décidé d'ouvrir sa propre boutique, plutôt en étal, dans un coin du marché de Hansan. Au début, les marchands étaient peu accueillants et les clients n'étaient pas nombreux, mais son excellent savoir-faire n'a pas tardé à être reconnu et les affaires ont commencé à prospérer. Et il a pu acheter sa boutique actuelle après un déménagement et ses 3 enfants ont pu faire des études supérieures. Aujourd'hui, il apprend tout seul à réparer les appareils numériques.
Je n'ai pas vérifié son expertise, mais je n'ai jamais douté de ses compétences. C'était parce que je savais qu'il avait pénétré au cœur de son travail en partant du plus bas. 2 heures avec lui sont passées si vite que je ne me suis même pas rendu compte que le dictaphone était éteint. Il neigeait abondamment dehors. Une seule personne était entrée dans le magasin pendant que nous parlions. Ce n'était pas un client, mais un homme qui essayait de vendre des gâteaux de riz pour aider les personnes en difficulté. Monsieur Park et sa femme ont posé quelques billets dans sa main. En disant au revoir au couple, j'ai demandé si toutes ces pendules et aiguilles ne lui causaient pas de l'anxiété ou des étourdissements. « Vous ne comprenez pas, nous sommes anxieux quand ces choses ne bougent pas. »
Écoutons la critique littéraire Chen Soyang qui nous explique comment le propriétaire de l'horlogerie a inspiré le narrateur.
Le protagoniste n'avait pas été convaincu quand son ami rédacteur en chef de la revue littéraire lui avait dit qu'un univers peut être trouvé même chez un paysan, en citant Vladimir Nabokov. Mais il a changé d'avis après avoir rencontré l'horloger. Le vieil homme a appris le monde et la vie en réparant les montres. Il est essentiel de respecter l'ordre des choses et de vivre honnêtement. Sa propre vie en est la preuve. C'est cette attitude simple, mais difficile à maintenir, qui nous fait avancer petit à petit. Si vous faites de votre mieux pour vivre votre vie, celle-ci brillera comme un univers rempli de vérité.
Le rendez-vous avec l'employé de la coopérative de crédit est de nouveau repoussé. Notre écrivain décide alors d'explorer davantage la ville. Il aperçoit un petit restaurant spécialisé dans le poulet frit devant lequel il est passé à plusieurs reprises durant son séjour.
La boutique n'avait pas de table dans le hall à la différence des autres restaurants du même type, mais il y avait 2 bureaux d'école. Celui du mur de gauche était occupé par un enfant au début de son adolescence. Un garçon plus grand, probablement un collégien, était assis devant un autre, le dos tourné à l'entrée. La mère lisait un journal devant la friteuse à droite et le père se préparait pour la livraison, assis sur un tabouret devant l'entrée, les yeux fixés sur ses 2 fils. Malgré l'espace restreint, il semblait que cette famille s'encourageait de manière réfléchie et attentionnée. Dans ma tête, j'ai enlevé l'enseigne de restaurant de poulet frit pour la remplacer par celle d'une salle d'études. Les garçons étaient complètement concentrés sur leur lecture. Des larmes me montaient aux yeux lorsque j'observais cette famille dans une rue de nuit où la neige tombait à gros flocons. Le père et la mère semblaient endurer le dur labeur et les difficultés de la vie en regardant leur fils étudier. Les enfants, quant à eux, étaient absorbés sans se plaindre dans la lecture qui permettrait d'élargir leur horizon mental. Les vieux livres dans la bibliothèque m'ont touché et mon cœur palpitait à la vue des mouvements des crayons des enfants. J'ai ressenti l'envie soudaine d'entrer dans le magasin et de leur caresser la tête avec tendresse. Je leur aurais donné de l'argent de poche s'ils m'avaient laissé faire.
Une fois tous les entretiens terminés, le narrateur protagoniste se dirige vers son hôtel. Il serre fort de sa main gelée l'enregistreur vocal qui est dans sa poche.
Le dictaphone n'était pas plus fort que la plume, mais pour l'instant, cet appareil m'était plus précieux.
Retrouvons une dernière fois la critique littéraire Chun So-young qui nous explique ce que signifie cette dernière scène.
Avant son séjour à Hansan, le protagoniste écrivait ses textes sans jamais quitter sa chambre. Et maintenant, il écoute les voix vivantes des habitants rencontrés dans ce canton. Cette dernière scène nous laisse supposer qu'une œuvre littéraire authentique et sincère peut naître lorsque l'écrivain sort de son cocon et se met à transcrire les mots des gens ordinaires enregistrés avec son dictaphone.
Ainsi se termine cette édition de Lettres coréennes consacrée à la nouvelle de Hei Isu, cahier de Hansan. C'était Yun Yeni au micro avec Xavier Liodé au doublage et Oh Ha-young à la réalisation. Nous vous invitons à découvrir à partir de la semaine prochaine Il était une fois, une nouvelle émission présentée par Louis Paliciano qui vous aidera à explorer des contes populaires du pays du matin clair.